Parlons sport. Parlons sport. Une émission animée par Gilles Bombard.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Parlons Sport. Chaque semaine, retrouvez-nous à la radio, sur les réseaux sociaux et en podcast. Parlons Sport au plus proche des clubs et au cœur de l'actualité. Pour nous accompagner aujourd'hui, Julien Mathieu est là. Salut Julien.
Salut Gilles, salut à toutes et tous.
Julie est avec nous également. Salut Julie.
Salut Gilles, salut à tous.
Nos invités du jour conjuguent exploit et ballon rond, on les appelle parfois les petits poussés de la Coupe de France. Il nous fait l'honneur d'être avec nous, c'est l'entraîneur adjoint du FC Versailles, Charles Itange. Bonjour Charles.
Bonjour, bonne année et bonsoir à tous.
Et bonne année, bonne santé, beaucoup de bonnes choses pour toi et ton club, bien sûr. Et nous aurons également en seconde partie d'émission celui qui fut capitaine de l'équipe de Calais lors de sa formidable épopée Coupe de France 2000. Réginald Beck sera avec nous dans Parlons Sport. Voilà pour cette première de l'année 2022. On va parler de football pour ne pas changer et surtout de la Coupe de France. Parlons Sport, c'est juste après le sommaire. Parlons sport et d'exploits aujourd'hui. Nous connaissons toutes les affiches des huitièmes de finale de la Coupe de France de football et Versailles n'est plus qu'à 4 matchs de la couronne. Le FCV qui va recevoir le Toulouse Football Club, ce sera pour le dernier week-end de janvier. Nous allons revenir sur l'exploit du club de National 2, qualifié pour la première fois de son histoire pour les huitièmes de finale en restant souverain sur ses terres au stade Montboron en battant La Roche-Vendée Football. Les Vendéens qui ont rendu assez vite les armes durant le match. Les Versaillais ne brillent pas que pendant la Coupe de France puisqu'ils sont dans la position du dauphin en National 2 en étant deuxième et le club a beaucoup d'ambition pour l'avenir et c'est avec Charlie Tange que nous allons parler de tout cela dans Parlons Sport. Enfin, retour sur l'épopée du club de Calais, finaliste de la Coupe de France 2000. Souhaitons le même parcours au FCV. Réginald Beck, capitaine de l'équipe durant la finale, sera avec nous aussi dans Parlons Sport. Voilà pour ce programme, Parlons Sport spécial Coupe de France. C'est parti, on va commencer par des réactions de coach.
Un huitième de finale, c'est plutôt rare dans la carrière d'un joueur amateur. Ne pas se mettre une pression qui soit négative, justement, qu'on puisse jouer de manière libérée. Avoir une bulle malgré tout, parce que l'environnement n'est pas celui d'une rencontre de championnat, puisqu'on a moins de monde à domicile. Donc il a fallu que les joueurs se mettent dans une bulle, c'est ce qu'ils ont très bien fait. Et au fur et à mesure de la rencontre, notamment cette première période où les éléments étaient en notre faveur, être porté par le public, ça donne de la force, de l'énergie et de la confiance. C'est ce qui s'est passé. Mais j'ai un groupe plutôt mûr, des garçons... Qui des hommes avec de la maturité, des responsabilités de vie, de famille, donc ils sont capables également de faire la part des choses et de relativiser.
Réaction d'après-match de Youssef Chibi, l'entraîneur du FC Versailles, donc qui a battu La Roche-Vendée Football 4-0. C'était il y a quelques jours à Versailles au stade Montboron. Est-ce que tu es d'accord avec les déclarations de Youssef Chibi, Charlie Tange, sur la qualité du groupe qui est resté concentré et qui a fait un début de match assez tonitruant?
Oui, disons que sur ce match-là, nous avons réussi à déjà à prendre cette équipe vendéenne au sérieux, parce que c'est vrai qu'on a toujours une certaine appréhension en se disant que les joueurs peuvent vite tomber dans la facilité et prendre ce match à la légère du fait de différences de division entre les deux équipes. Mais non, on s'est vite rendu compte dès l'échauffement que le joueur était mobilisé et concentré, parce qu'un match de Coupe de France, ça se gagne au niveau de la détermination et également de l'aspect athlétique qui est notre force.
Mais alors, moi, j'étais au stade. Et ce qui m'a surpris, c'est que malgré la foule qui était venue en grand nombre, le stade était rempli, la jauge en tout cas ne pouvait pas être dépassée. Malgré le public, malgré l'enthousiasme populaire en général, les joueurs n'étaient pas du tout inhibés par l'enjeu. C'est-à-dire que d'emblée, on les a sentis motivés. Comment est-ce que tu expliques cette décontraction sur le plan psychologique qui les a permis de bien s'exprimer d'emblée sur le terrain?
Déjà, je pense que ça a très bien été résumé par le coach, en expliquant qu'on a quand même un groupe assez mature, des joueurs qui ont un peu roulé leur bosse quand même dans cette division et qui ont aussi eu des parcours professionnels et des parcours de vie assez similaires. C'est l'ossature de notre équipe et je pense que ça, en fait, ils arrivent à ne pas être inhibés et à transcender et à se transcender. Voilà, simplement en prenant les choses comme elles viennent, en ne faisant pas le match ou le film du match avant l'événement. Je trouve que ça aussi, c'est un aspect qui prouve et qui montre qu'on a une équipe assez cohérente et solide. Maintenant, une saison, c'est long, que ce soit en Coupe de France ou en championnat. Je pense qu'il faut simplement essayer de continuer comme ça.
Bon, en tout cas, il n'y a pas eu de complexe sur ce match malgré l'enjeu. Et je pense que ça s'est vu sur ce but incroyable. Si vous ne l'avez pas vu, ce but, mesdames et messieurs, allez le voir d'urgence sur YouTube.
Le premier.
La reprise de volée de Makan Traoré sur un centre qui vient de la droite. Alors, ce n'est pas le premier but. Il vient un peu plus tard dans le match, ce but-là, me semble-t-il. Un centre qui vient de la droite, reprise de volée du gauche de Makan Traoré en dehors de la surface de réparation. Le gardien est battu. C'est un but incroyable. Qu'est-ce que tu en as pensé, Charles?
Très honnêtement, en ayant vu le ballon naviguer, on s'est dit qu'il ne pouvait se passer qu'un miracle en cas de reprise de volée parce que Makan, c'est quand même un joueur qui a une sacrée qualité technique. Il a déjà joué en national, donc au niveau du dessus, les matchs de cette intensité-là et avec tout ce que ça crée autour, il en a l'habitude. Et voilà, très honnêtement, étant assis sur le banc, on a été spectateur et effaré hein, par la qualité et la prouesse technique de notre joueur parce que c'est vrai que ça arrive aussi à un moment où on arrive à faire le break, où cette équipe andéenne nous posait quelques soucis au milieu du terrain. Mais après, je trouve que voilà, ce qui nous a surtout fait du bien, ce sont deux choses, c'est-à-dire c'est la réalisation technique entre le centre de Kevin Famba, côté droit, qui est très bon, coup de pied qui arrive. En fait, c'est le latéral qui sert l'autre latéral, ce qui est incroyable. Et la réalisation technique, surtout dans tout ça, c'est ce qui... ce sont les deux choses, je pense, à retenir pour nous et dont on peut aussi se targuer parce qu'on a souvent dit et souvent expliqué à nos latéraux, un, de centrer dès qu'ils ont la possibilité et deux, de rentrer dans la surface pour créer du surnombre.
Et alors, il y a eu un autre fait de match, Charles, qui a certainement dû te plaire au regard de ta carrière de gardien dans le passé. Versailles mène 2-0, mais provoque un pénalty pour la Roche-Vendée et arrêt du gardien de but d'Anne Delaunay, qui permet de conserver ses deux buts d'avance en première mi-temps. Donc là, c'est limite un tournant du match, hein, puisque après, vous le marquez assez rapidement, ce troisième but de Makan Traoré, justement.
Bien sûr, oui, exactement. C'est-à-dire que c'est un arrêt important, déjà, pour une chose. Moi, je trouve que c'est un arrêt qui récompense le comportement et le professionnalisme exemplaire de ce gardien qui a également roulé sa bosse, mais qui cette année joue un peu moins parce qu'il y a de la concurrence à tous les postes chez nous. C'est un luxe que l'on a. Le tour précédent, il est parti du bon côté, et puis le ballon a tapé le poteau. Nous, sur le banc, on pensait que c'est lui qui l'avait arrêté, mais il a eu l'honnêteté et l'humilité de dire que non, le pénalty a été tiré sur le poteau. Et là, je trouve que il a été récompensé. C'est un peu dans la lignée de tout ce qu'il a fait depuis le début de saison, en étant professionnel, en soutenant son partenaire qui joue, en montrant également qu'il est présent parce que chaque jour à l'entraînement, il travaille fort. Et c'est aussi ce qui crée l'émulation et la bonne tenue de notre groupe, c'est-à-dire qu'on a des joueurs qui se tirent les uns les autres vers le haut. Et ça, je trouve que on peut réaliser ces arrêts-là uniquement si on est concentré et Dan l'a très bien fait.
Et le quatrième but est marqué toujours en première mi-temps par Walid Diouf, lui aussi défenseur de l'équipe. Finalement, c'est ça la force de l'équipe, une défense qui est très efficace devant le but, dans le dernier geste en tout cas. C'est le style que tu donnes à cette équipe, un style offensif.
Ça me fait plaisir d'entendre ça. Oui, je pense qu'on a, quand même un style offensif. De toute façon, en fait, on essaie toujours de trouver l'équilibre, de garder un certain équilibre dans notre équipe. Là, sur ce match, effectivement, deux défenseurs ont marqué et on a quand même un attaquant qui a mis un doublé.
Ouais.
Donc, c'est aussi à préciser. Alors, est-ce que notre équipe est offensive? On essaie de lui donner un aspect offensif sans pour autant perdre l'équilibre. Voilà. Ouais, je peux dire qu'on a un style quand même offensif.
Et puis donc avec Christopher Ibaï, votre attaquant, le meilleur buteur du club, hein, déjà 12 buts cette saison, qui a marqué donc un doublé toujours en première mi-temps, ce qui vous permet finalement de rentrer dans les vestiaires à la pause avec 4 buts d'avance. C'était quoi le discours du coach pendant la mi-temps? Est-ce que tu as senti, toi, en tant qu'entraîneur adjoint, que dans la tête des joueurs, c'était fait? Ou alors tu les as sentis toujours concernés parce que c'est la Coupe de France, parce que tout peut arriver et qu'il y a eu un pénalty arrêté aussi, il ne faut pas l'oublier. C'était quoi l'ambiance générale du vestiaire à ce moment?
Eh ben, c'est très juste. Le scénario de cette première période nous a permis quelque part de garder les joueurs alertes, parce qu'au final, lorsque l'on concède un penalty et que celui-ci est arrêté par le gardien, je peux vous dire qu'à la mi-temps, ça trotte un peu dans les têtes. Parce qu'on se dit, alors oui, on a marqué, mais ils ont aussi la capacité de renverser le match si nous ne restons pas concentrés. Donc le discours a été de maintenir les joueurs sous pression et de leur faire comprendre qu'il fallait essayer de creuser l'écart, mais surtout de ne pas encaisser dans le premier quart d'heure, parce qu'un match de coupe, même si on est à domicile, peut quand même très vite s'emballer. Et je trouve qu'on a plutôt bien répondu.
Ouais, bon, en tout cas, l'équipe a maîtrisé la deuxième mi-temps. Donc, victoire finale et score final de 4 buts à 0 contre la Roche-Vendée Football. On a vu à la fin du match une communion entre le public et ses joueurs. C'était beau à voir. En entrant dans les vestiaires, donc on a entendu ensuite Youssef Chibi qui disait: on va garder la tête froide, on va continuer à préparer les matchs qui arrivent. Mais alors, au-delà du sérieux et puis du professionnalisme qu'on peut attendre du staff et des coachs, qu'est-ce qu'on leur dit quand même aux joueurs? On leur dit les gars, profitez parce que ça n'arrive qu'une fois peut-être. Ou alors, surtout, restez concentrés. On a des matchs qui arrivent, on n'a pas atteint tous nos objectifs. Comment est-ce que vous avez géré la chose?
Oui, chaque chose en son temps. Là, je pense que c'était vraiment le moment de communier avec le public, avec des gens qui sont venus nombreux. Alors, le score était fleuve, oui, certes, mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus l'habitude d'avoir ça tous les week-ends. Et l'idée d'aller remercier les supporters d'être venus, c'est aussi d'essayer de démobiliser de manière à ce qu'on soit, à ce que ça se répète plus souvent dans la saison et pas uniquement sur le match de Coupe de France. Alors effectivement, l'idée c'était quand même de dire aux joueurs de profiter de ce moment-là, d'aller communier, parce que ça reste une fête quand même. Ça reste une fête quand même, la Coupe de France. Et puis pour le championnat, on aura le temps de se préparer, effectivement. Ouais.
Et donc, nous connaissons les affiches pour les huitièmes de finale. Vous allez affronter en huitièmes de finale de Coupe de France le Toulouse Football Club, entraîné par Philippe Montagnier, qui est un coach de renom quand même. Vous avez d'ailleurs un point commun, hein, toi et lui, un ancien club, le Racing Club de Lens. Alors, à chaud, quelles étaient les réactions? Parce que quand on est une équipe comme Versailles, je pense qu'on veut à la fois poursuivre le beau parcours, mais aussi avoir une belle affiche, Et en
PSG, quoi.
affrontant voilà, une grosse équipe, le PSG ou Marseille, je ne sais pas. C'était quoi
Le
l'ambiance
PSG,
générale
surtout,
après ouais, le... T'avais une préférence, Charles?
je pense. Oui, bien sûr, j'ai une préférence. Hein.
Ouais.
Bien sûr. Oui. Dans l'idée, c'était de jouer le PSG, pour ne pas vous mentir.
Ouais.
Et est-ce que ça veut dire que le match face à Toulouse sera plus simple? Absolument pas. Absolument
clair.
Pas. De toute façon, je pense qu'à ce niveau de compétition, à huitième de finale de Coupe de France, les équipes qui resteront majoritairement sont les équipes pro. Donc voilà, ouais. Après, si ce n'est pas le PSG, tant pis. C'était une très belle fête. Maintenant, qu'on rencontre Toulouse, qu'on rencontre Nancy, ce sont quand même des super matchs à jouer. Hein, parce qu'on n'oublie quand même pas qu'on est le petit poussé, entre guillemets, de National 2. Voilà, ça fera aussi partie de la progression du groupe et la progression du club.
Et Julie?
Oui, moi j'avais une question, justement, le fait que tu aies une carrière professionnelle. Qu'est-ce que tu vas pouvoir leur dire à tes joueurs sur le fait justement d'être le petit pousset, de se retrouver contre un club quand même qui a une forte histoire, Toulouse, qui est aujourd'hui en Ligue 2, mais qui a eu un grand parcours en Ligue 1 et à mon avis qui va y retourner bientôt. Donc justement, qu'est-ce que tu peux leur dire entre vivre à fond, en même temps être dans le sérieux et se dire qu'on a toutes ses chances quand même, parce que ça reste la Coupe de France et on l'a bien vu avec Calais, dont on va parler après. Que
ouais.
Tout est possible quand même, quoi.
Bah, l'idée, c'est d'aborder le match en faisant bonne figure. Ça va être l'idée quand même. Essayer de faire bonne figure. On ne changera pas la philosophie, que ce soit en championnat ou en Coupe de France. Je pense que... Alors, vous n'allez peut-être pas me croire, mais nous, dans notre idée, alors effectivement, on veut gagner des matchs, mais dans un premier temps, c'est de faire belle figure. Déjà. Parce que on estime que la consistance et la progression passent par là. Maintenant, dans l'idée, c'est effectivement de prendre un maximum de plaisir.
Ouais, mais c'est vrai qu'on parle quand même de Toulouse, qui est deuxième de Ligue 2. Alors, on se parle à un point du premier, mais qui, bon, a quasiment un pied en Ligue 1, on ne va pas se mentir. Alors, je crois que je suis même sûr, dans le parcours, dans votre parcours cette année en Coupe de France, vous n'avez encore affronté aucun club jouant dans un championnat supérieur. Donc, contre Toulouse, il y aura probablement un écart de vitesse ou d'intensité. Comment vous allez vous préparer pour hisser votre niveau de jeu? Parce qu'il y aura, j'imagine quand même que même si vous voulez faire bonne figure, vous ne voulez pas vous prendre non plus une déculottée. Et j'imagine que vous voulez quand même vous qualifier. Donc comment vous allez vous préparer vraiment, surtout toi qui connais ce haut niveau-là?
Bah, je vais vous dire, honnêtement, l'idée c'est d'appuyer sur nos points forts. D'appuyer sur nos points forts parce qu'en amont, on n'aura pas le temps... d'améliorer les points faibles, enfin, c'est des équipes d'un niveau supérieur.
Alors justement, quand tu évoques points forts, points faibles, en tout cas parmi les points forts de l'équipe de Toulouse, on voit qu'ils ont un buteur prolifique cette saison, qui est britannique. Hein, il enfile des buts Hayley, avec le meilleur passeur également, Branko Vandenbomen, un Hollandais. Est-ce que ces points forts de Toulouse...
C'est la meilleure attaque de Ligue 2.
Ouais, donc justement, enfin, donc des passeurs, des buteurs. Donc l'attaque, c'est le point fort de Toulouse. Est-ce que c'est problématique vis-à-vis des points faibles de Versailles? Autrement dit, on te demande, c'est quoi les points faibles de Versailles, Charles?
A fortiori, on a plus de points faibles que de points forts si on doit comparer les qualités intrinsèques de chaque joueur. Autrement, il n'y aurait pas de division et nous serions en deuxième division et ils seraient en National 2. Donc déjà, on va partir de ce principe-là. Et l'équipe qui chasse et l'autre... il y a une équipe qui est dans la peau du chasseur et
ouais.
qui est chasseur. Donc l'idée, c'est quoi? C'est simplement, comme je vous le dis... Bah, c'est essayer de jouer un maximum sur nos points forts. Maintenant, nos points forts, qu'est-ce qu'ils sont? Je pense qu'ils sont, ils sont connus. Et ils seront analysés aussi par les Toulousains qui ont une vidéo assez compétente parce que je connais un petit peu. Et voilà. Maintenant, c'est pas facile, hein, je vous assure. C'est vraiment pas facile, hein, de citer les points forts d'une équipe, enfin de mon équipe, parce que j'imagine que ce podcast-là, alors on parle du match de Coupe de France, mais il y a aussi le championnat qu'il ne faut pas oublier non plus, quoi.
Ouais, on y reviendra juste après sur le championnat. Juste, tu sais si le match se déroulera bien au stade Montboron, parce que le directeur général Jean-Luc Haribar faisait, laissait planer le doute sur notamment l'horaire du match qui ne serait peut-être pas compatible avec le fait de jouer dans votre stade habituel. On en sait plus à ce sujet.
Ouais, parce qu'on a un problème d'éclairage effectivement à Montboron et c'est en cours. A priori, cette semaine, on en saurait plus. Fin de semaine ou début de semaine prochaine, pour tout vous dire.
Mais donc aujourd'hui, l'option Montboron existe encore ou c'est rédhibitoire, c'est pas possible?
Je pense que ça va être difficile.
Bon, et ben, en tout cas, on espère que de nombreux Versaillais et Versaillais se déplaceront dans le stade, quel qu'il soit. Ne nous emmenez pas à Toulouse quand même, s'il vous plaît, parce que là, ça va être un peu tendu le déplacement. Mais alors, là, effectivement, je rebondis sur ce que disait Julie tout à l'heure. Là, les Toulousains, voilà, ils ont quand même l'habitude des grandes affiches, en tout cas ces dernières années. Ils sont archi favoris. Qu'est-ce qui se passe là, à ton avis, dans la tête des Toulousains? Parce que tu as aussi joué au haut niveau. Est-ce que dans la position des Toulousains, on accueille ce tirage-là avec un ouf de soulagement?
Absolument pas.
Ah ouais, c'est la méfiance, tu penses, de leur côté?
Absolument, tout à fait. C'est vraiment pas simple à jouer. Hein. Je vous le dis parce qu'il m'est arrivé avec Lens de me faire éliminer par Dijon. Dijon qui joue en deuxième division à l'époque. Et c'est vrai que je me souviens que ce match-là, je sais pas, mais il y avait quand même une atmosphère assez bizarre. On était, déjà, on s'est fait bouger du début jusqu'à la fin. Et on part avec l'appréhension en fait, d'être ridicule en se faisant éliminer. Parce ouais, que là, ça. On ne peut pas se permettre de bien jouer contre... Étant dans la peau du professionnel, tu ne peux pas te permettre de bien jouer contre une équipe d'un niveau supérieur et perdre. Donc la pression est vraiment du côté du groupe.
Ouais, ouais. Et puis en plus, on va recevoir le capitaine de Calais qui est arrivé en finale en 2000. Et voilà, dans leur parcours, ils avaient éliminé des clubs comme Bordeaux, Strasbourg qui étaient en Ligue 1 alors qu'eux, ils étaient en CFA. Donc ce qui est l'équivalent du championnat de Versailles actuel, la Nationale 2.
Après, en tout cas, au vu du match que vous venez de faire, de ce 4-0, où on a vu des qualités offensives justement indéniables, je pense que vous vous préparez dans les meilleures conditions ce match contre Toulouse. Enfin, j'imagine bien que là, l'attaque est en confiance, et même le goal finalement, puisque lui aussi a arrêté un pénalty, donc c'est important dans une carrière d'arrêter un pénalty. Donc je suppose que là, quand même, les conditions sont là pour faire un beau match.
Oui, oui, mais avant ça, il y a quand même un match de championnat. Je veux dire, alors oui, c'est cette victoire, ce qui nous permet forcément d'accumuler de la confiance en prévision du match de championnat. Le match de Toulouse, on verra un peu plus tard, parce qu'il peut se passer tellement de choses par les temps qui courent, avec le Covid, etc. Ouais. Voilà, on n'est pas non plus à l'abri de tout ça, mais c'est vrai effectivement qu'on peut dire qu'on a accumulé de la confiance. Parce qu'on a été efficace sur le plan offensif en ayant marqué 4 buts et efficace sur le plan défensif parce qu'on a concédé 0 but, effectivement.
On va parler maintenant de la saison en général, Charles. Donc, le club évolue en National 2, vise donc l'élite, hein, en tout cas au moins le National dans les trois prochaines années. On aura l'occasion de revenir sur le projet qui concerne le club dans quelques instants. Mais alors donc maintenant, vous jouez sur deux tableaux, au moins jusqu'à fin janvier, et on espère bien au-delà. Comment est-ce que vous allez gérer ça au niveau du staff? Parce que, vous allez avoir un certain nombre de sollicitations, notamment médiatiques, les joueurs, le staff. Il y aura un regard différent sur l'équipe. Et peut-être une montée en pression parce que vous serez attendu et parce qu'un huitième de finale qui sera peut-être diffusé à la télé, bah, c'est quand même un événement spécial. Est-ce que vous êtes déjà concerté au sein du staff pour aborder une méthode, sachant que, comme tu l'as dit, vous êtes bien placé au niveau du championnat de National 2 et que l'objectif reste quand même de préparer correctement les prochains matchs, de les gagner et d'envisager la montée.
Alors, est-ce qu'on en a parlé pour l'instant? Non, parce que chaque chose en son temps. Maintenant, moi, je vous dis, très honnêtement, il faut rester sur ce que l'on a bien fait, c'est-à-dire de prendre les matchs les uns après les autres et ne pas non plus... et se dire que la pression va avec le succès, au final. Parce que, est-ce que nous sommes attendus à présent? Oui, déjà, parce que on a fait un super parcours sur les matchs allés. Donc, on était peut-être la surprise au début, mais maintenant, on ne l'est plus. Et d'ailleurs, comme vous l'avez très bien précisé, en Coupe de France, on est passé en huitième, ce qui veut dire que ça confirme un peu la bonne tenue de notre équipe depuis le début d'année. Mais il faut apprendre à faire avec. Alors, les sollicitations, elles sont forcément nombreuses. Les joueurs doivent continuer d'être entourés et doivent être suffisamment intelligents pour savoir faire la part des choses.
Alors, Charles, tu m'arrêtes si je me trompe, mais là, actuellement, vous êtes deuxième hein, de National 2.
Ouais, alors,
juste avant Toulouse en Coupe de France, vous allez donc affronter Lorient, la réserve de Lorient, qui est donc premier.
Ouais.
Donc, c'est un match capital, a priori. Ouais. J'imagine que c'est ça la priorité, le championnat.
Voilà, vous avez tout dit.
Parce que sachant que pour passer en National 1, il faut être premier, hein, c'est ça?
Exactement. Mais bon, après, ouais. Lorient peut remonter, parce que Lorient a déjà l'équipe en première division. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est effectivement d'être bon en championnat. Pourquoi? Parce que le championnat est le fil conducteur. Je pense que gagner un championnat, il ne peut pas avoir quelque chose de plus satisfaisant que de gagner un championnat, parce que c'est vraiment les efforts de toute une saison qui sont récompensés. Donc l'idée, c'est vraiment de rester concentré d'abord sur le championnat et d'engranger de la confiance avec la Coupe de France. Je pense que jusqu'à présent, on est plutôt bien sortis. Parce qu'également, ça a permis de donner du temps de jeu à des joueurs qui jouent un peu moins. Ça a permis à garder, à entretenir une bonne dynamique au sein du groupe. Mais l'idée, c'est vraiment d'abord le championnat. Ah oui.
Et est-ce que justement la Coupe de France peut donner de la confiance pour le championnat? Et est-ce que tes garçons sont bien au fait que s'ils perdent, ça restera quand même une formidable aventure et un exploit? Parce que je pense qu'il y a toujours ce petit truc à la fin, si on perd, de se dire c'est dommage, quoi, on aurait pu aller plus loin. Et la frustration peut prendre un peu le dessus. Est-ce qu'ils sont déjà un petit peu préparés à ça en se disant…
Ouais, et entraîner un cercle vicieux,
ouais. Oui, ouais, bien sûr. Non, je comprends tout à fait votre question. Mais c'est pour ça, alors je reviens justement au début de cette interview, on vous explique, enfin, en disant et en reprenant les mots de l'entraîneur, de Youssef, qui expliquait que nous avons un groupe très mature, effectivement. Ça, c'est vrai que notre groupe est mûr et c'est très important parce qu'ils savent et ont compris que ce qui validera notre saison, c'est le championnat et non pas la Coupe de France. La Coupe de France, c'est vraiment du bonus. Mais en même temps, effectivement, c'est un cercle vicieux parce qu'on, l'appétit vient en mangeant. Mais l'idée et la volonté de tous est quand même cette première place en championnat.
Bon, en tout cas, l'équipe est en train de se renforcer, Charles, puisqu'on a appris l'arrivée de Salim Ossila, un ancien joueur de Troyes et d'Auxerre, donc qui a connu le football professionnel. Vous aurez d'autres arrivées là durant ce mois de janvier. C'est un souhait du staff de se renforcer, notamment par rapport à la situation sanitaire délicate.
C'est possible, mais pour l'instant, on est très satisfait du groupe de joueurs qu'on a.
On va revenir sur le projet de manière générale, Charles, puisque quand on parle du FC Versailles, club que tu as rejoint d'abord comme joueur il y a quelques années, et puis je suppose que tu es en train de passer tes diplômes d'entraîneur oui. En ce moment, et tu es entraîneur adjoint du club aujourd'hui. Mais le club, il y a plus de 10 ans, le club de Versailles, il était encore en DHR. Ouais. DHR, c'était l'équivalent de la 8e division nationale à l'époque. Et aujourd'hui, donc, le club est en National 2, donc l'équivalent de la 4e division nationale. Donc le club a effectué une remontée fulgurante ces dernières années, avec notamment L'apport de Youssef Chibi, qui est entraîneur du club depuis 2014, donc il est là depuis longtemps, il connaît bien son groupe. Et on a eu l'été dernier, eh bien, l'arrivée de nouveaux investisseurs avec une nouvelle direction, une nouvelle organisation, des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Quel regard portes-tu là sur la trajectoire qu'est en train de prendre le club ?
Je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que j'ai toujours senti que ce club avait un potentiel. Et vous savez, généralement, pour laisser des grandes aventures comme ça, il faut très peu. Il faut des dirigeants avec une vision, des dirigeants prêts à sauter le pas et à avancer en faisant les bons choix. Et je pense que le FC Versailles a quand même eu une sacrée progression, effectivement, depuis 2014. A également eu de très bons joueurs, mais le tout d'avoir des bons joueurs, il faut savoir les faire jouer ensemble. Et ce qui a fait la force de ce club, c'est qu'on a réussi à garder des joueurs pour 3, 4 ans, en ajustant à droite, à gauche. Et c'est ce qu'on en a fait également l'année dernière, et c'est ce qu'on a fait également cette année. Mais cette année, ça a été un peu plus gros avec l'arrivée de Jolet Caribar, avec les investisseurs qui étaient là déjà l'année dernière, mais qui sont impliqués totalement aujourd'hui, avec le côté structurel, organisationnel, logistique qui s'est développé également. Aujourd'hui, on a un intendant, on a, je ne sais pas comment dire en français, un kitman, une personne en gros qui s'occupe des affaires des joueurs. Vous savez, ça n'existait pas il y a peu de temps. Maintenant, je trouve que le club a quand même mis les ambitions, c'est quand même mis au niveau de ses ambitions.
L'objectif reste la montée dès cette année, ou alors vous allez y aller petit à petit par rapport notamment aux nouveaux moyens qui sont en train de renforcer justement le club?
On va y aller petit à petit, mais en essayant de progresser. L'idée de base, c'est vraiment celle-là, en fait.
Juste Gilles, ouais. je rappelle quand même que Versailles vient tout juste d'arriver en National 2, hein, puisque ils ont été promus en 2020, donc au moment du premier confinement, la saison s'est arrêtée. L'année dernière, les championnats se sont très rapidement arrêtés aussi. Donc voilà, c'est encore très récent, mais ils sont déjà en lice pour la qualification en National 1, donc chapeau à eux.
Et en tant qu'entraîneur adjoint, Charles, et ancien gardien international, quelle est ta façon de coacher au quotidien? Est-ce que tu as quand même quelques mots en plus pour le gardien, ou alors tu gardes quand même une vision générale sur tous les petits travaux de groupe que vous faites à l'entraînement? Comment tu agis au quotidien aux côtés de Youssef Chibi?
J'essaie d'avoir la même pédagogie aussi bien pour les gardiens que pour les joueurs de champ. Je suis davantage avec les joueurs de champ qu'avec les gardiens. Disons que j'essaie de leur faire part un petit peu de mon expérience, mais pas en disant « moi je », parce que ça fatigue. Et à un moment donné, à force de se parler, plus personne ne t'écoute. J'essaie d'être à l'écoute justement des questions, des éventuelles questions qu'ils auraient à poser. J'essaie de faire le lien entre le coach et les joueurs. J'essaie de les mettre en confiance aussi également. Parce que moi, la question qu'on m'a souvent posée, c'est quelles sont les qualités que je n'ai pas pour ne pas avoir ma chance au-dessus. En fait, vous avez tous les mêmes qualités. Le seul truc, c'est au niveau du professionnalisme, de la répétition des efforts, de la notion de sacrifice qui n'est pas toujours assimilée. Mais dans l'idée, c'est vraiment de... Ce que je fais, c'est j'essaie vraiment de donner un peu ce côté... d'appuyer sur le côté professionnel que le coach... mais auprès des joueurs.
Merci Charlie Tante. Prochain match au stade Montboron à Versailles, ça sera le samedi 15 janvier contre Saint-Privé-Saint-Hilaire pour le championnat de National 2. Merci beaucoup Charlie Tante d'avoir été avec nous et bonne chance pour la suite.
C'est gentil, merci à vous, bonne soirée.
Merci, bonne soirée. Bonne soirée.
Avec nous, l'ancien capitaine de l'équipe de Calais, finaliste de la Coupe de France en 2000, Réginald Beck. Bonjour Réginald.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Réginald. Donc, on se souvient de ton parcours, de l'épopée de Calais, il y a un peu plus de 21 ans maintenant. Quel parcours, Julien ?
Alors oui, pour resituer, et je parle sous ton contrôle, Réginald, pour resituer Calais à l'époque est en CFA, donc c'est l'équivalent de la Nationale 2 aujourd'hui, hein, dans laquelle évolue Versailles, justement. Et l'année d'après, donc, Calais monte en Nationale 1. Donc c'était quand même une belle période pour le club. Alors pour le parcours, en ce qui concerne le parcours en Coupe de France, donc de la saison 99-2000, en 32e de finale, Calais bat Lille. En 16e, Calais bat Lagon-Casté, qui est un club de CFA 2 à l'époque. Ensuite, en 8e, c'est Cannes, qui est battu par Calais, club de D2 également. Et ensuite, c'est que des clubs de Ligue 1. Donc en quart, ce sera Strasbourg, 2-1. En demi, là, c'est un match que je conseille à tous les amoureux du foot et de la Coupe de France de regarder au moins les highlights sur YouTube. C'est Bordeaux. Score final 3-1, et oui, 3-1, le Bordeaux il y avait Lasland, il y avait Dugarry, il y avait... Après prolongation, ouais. Donc un score vraiment de...
Très important, les prolongations.
Ouais. Et puis la finale contre Nantes, qui est un grand club à l'époque, qui est vraiment dans sa meilleure période, le club de Nantes, en finale, donc 1-0 à la mi-temps pour Calais, et puis score final 2-1, on y reviendra.
L'original, durant ce parcours incroyable, parcours historique... À quel moment tu t'es dit avec les autres joueurs et avec le coach, c'est possible, on peut aller au bout?
Oh bah, je vais dire jamais, parce qu'on était en quatrième division, on était en CFA, le club n'avait jamais vraiment fait un grand parcours en Coupe de France. Nous, individuellement, les joueurs, on n'avait jamais vraiment vécu de parcours ou d'épopée dans les différents clubs qu'on était passé. Il y avait que Jérôme Dutit, je crois, qui avait fait quelque chose, un petit 16e de finale ou de 8e de finale avec Angoulême quelques années plus tôt.
Donc, Dutit, c'est celui qui marque en finale d'ailleurs.
Et Jérôme Dutit, c'est celui qui marque, ouais, en finale, ouais, tout à fait. Non, on s'est jamais dit, oh, ben, c'est bon, là, maintenant, on va aller au bout. Déjà, il y a une part de chance quand même dans le tirage, forcément. Et puis le plus important, c'était de penser au match qui arrivait, donner le meilleur de nous-mêmes et d'être éventuellement au prochain tour. Donc voilà, c'était surtout ça. Je me souviens d'un match au 7e tour contre Béthune à domicile. On gagne 1-0, mais on est dominé quasiment tout le match. Béthune frappe le poteau. Donc il y avait aussi cette part de réussite dans les matchs, au tirage. Mais on jouait les matchs... c'est un peu bateau et standard, mais les matchs les uns après les autres, avec la coupe, le plus important, de toute façon, c'est d'être au tour suivant.
Mais justement, c'est ça que je voulais poser comme question, c'est quoi le secret d'une telle épopée, en fait? Est-ce que c'est la confiance, le talent aussi, la réussite, justement, le courage?
Je pense qu'il faut un maximum d'ingrédients, et tous les ingrédients que tu viens de citer, je pense qu'on les avait tous au même moment, au même endroit, sur le terrain, pendant 90 minutes, voire 120 minutes. Et tout ça réuni. Alors pourquoi ça a été réuni sur cette saison-là, sur des matchs bien précis? Parce qu'on ne pouvait pas non plus, c'était des matchs qu'on jouait tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, un match de très haut niveau, et on se préparait spécifiquement pour ces matchs-là. Alors pourquoi sur ce match-là, on était prêts, il ne nous arrivait rien, on avait une grosse confiance en nous? Alors il y a plein de choses, plein d'ingrédients que vous avez cité, la chance, le talent, la connaissance de notre coach, la solidarité, l'esprit d'équipe. Donc voilà, tout ça a fait que, mis bout à bout, ça nous a permis de vivre des moments extraordinaires et d'aller jusqu'à cette finale.
Et comment les nerfs tiennent contre Bordeaux notamment, qui était quand même entraîné par Elie Bop à l'époque, il y avait même Dugarry, c'était le grand Bordeaux autant que le grand Nantes après.
C'était le champion de France en titre, c'était le champion de France en titre.
Tout simplement. Effectivement. Et donc qu'est-ce que tu dis à tes joueurs à la 90e quand il y a le coup de sifflet final et que c'est les prolongations? Qu'est-ce que tu dis à tes joueurs? Est-ce que tu sentais que c'était possible à ce moment-là, ou est-ce que même là vous étiez dans un...
Disons qu'on était déjà quand on abordait les matchs, c'était surtout, en plus il faut quand même tout le monde dans le contexte, c'est-à-dire que nous on était en CFA, on va jouer à Bollaert, donc le stade, l'un des temples du Nord-Pas-de-Calais. 40 000 personnes complètement pour nous. Nous, quand on allait à Bollard, c'était plutôt dans la tribune pour voir le Racing Club de Lens que d'être sur le terrain. Donc, on avait aussi cette petite appréhension de passer à côté du match et de prendre une volée, quoi. Donc, il y avait aussi ce stress. Et puis après, forcément, donc on avait aussi un peu d'expérience contre Strasbourg. On avait joué aussi à Bollard, mais c'était différent parce que le match était, il y avait une tribune qui était fermée, donc pas complètement plein. Là, c'était en direct sur Canal+. Enfin, il y avait plein d'ingrédients qui auraient pu faire qu'on aurait pu perdre la tête, nos moyens. Et en fait, pourquoi on n'a pas perdu nos moyens? Pourquoi on a réussi à faire ce type de match? Parce qu'on était bien préparé, confiance en nous, mais sans arrogance, en respectant les adversaires et en donnant le maximum chacun individuellement et surtout pour l'équipe. Et quand on arrive au bout de 90 minutes déjà à la prolongation à Bollard, c'est sûr qu'on se dit qu'on a déjà acquis quelque chose, on a déjà fait quelque chose de très grand. Moi, pour ma part, personnellement, moi, j'avais les crampes qui commençaient à arriver dans les deux mollets, dans les cuisses également, parce que l'intensité était telle qu'on avait défendu, mais on avait aussi essayé de contre-attaquer, et on s'était procuré quelques situations. Et puis, quand il se passe un phénomène que le but de Cédric Jandot, alors vous ne l'expliquez pas, les crampes, tout s'envole, tout part, et vous êtes vraiment dans votre match, et rien ne peut vous arriver, vous avez l'impression de voler sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose, c'est une sensation que j'ai jamais de nouveau connue, quoi.
Ouais, mais qui est resté du coup malgré le but de l'Asland, pas 10 minutes après, parce que là vous auriez pu vous effondrer et vous dire on avait fait le plus gros et en fait ça y est, ils reviennent, quoi.
Oui, mais je pense qu'on avait une force morale, une insouciance, je pense quand même, une insouciance, une inconscience, une force morale, une force de caractère, des convictions que le coach nous avait données, des instructions que le coach nous a données, qu'on a appliquées de la première à la 121e minute. Et qui nous ont permis de faire cet exploit. Et peut-être aussi que Bordeaux a cru qu'il avait fait plus dur et s'est peut-être aussi un peu relâché, alors que nous, on a toujours été sur notre même niveau, qu'on ait pris le but ou pas le but. Quand on fait sur le quart de finale contre Strasbourg, on prend un but au bout de 6 minutes de jeu, on se dit ça va mal se passer. Et tout compte fait, on arrive à mener 2-1 à la mi-temps. Donc, on avait une grosse force mentale, un gros. Des convictions, puis comme j'ai dit, de la solidarité, puis quand même, les trois quarts de l'équipe sont quand même passés par des centres de formation, n'ont pas réussi à passer professionnel. Donc techniquement, tactiquement, on avait aussi appris qu'on avait quelques bases intéressantes. Et mis bout à bout et tous ensemble en même temps, ça a donné ce genre de performance.
Et juste pour rappel quand même pour nos auditeurs, dans l'équipe de Bordeaux sur ce match, il y a quand même deux joueurs qui, si je ne dis pas de bêtises, seront champions d'Europe quelques mois plus tard, donc Ulrich Ramé et Miku. Ouais. Et puis, il y a quand même un champion du monde, Dugarry. Il y a quand même, il y a Ziani, Batles, enfin des noms qui nous évoquent forcément quelque chose quand on a connu le foot de cette époque-là.
C'est des personnes qui sont encore dans le foot aujourd'hui, donc forcément… Ouais. Forcément, ouais, tout à fait. C'est des personnes aujourd'hui que je peux recroiser de temps en temps. On a toujours cette petite anecdote. J'ai recroisé Laurent Batles parce que j'ai commenté le match 3 à Nancy. J'ai recroisé Olivier Échouafny parce qu'on s'est croisé à la gare de Nancy. On a discuté de cette anecdote. Donc oui, ça nous a marqué, mais les joueurs aussi ont été marqués par leur match qu'on a pu disputer l'un contre l'autre. Ouais.
Et c'est quoi le sentiment qu'on a quand on défend une région aussi dévastée, malheureusement, que le Nord-Pas-de-Calais, notamment Calais en particulier? Ça doit vous transcender aussi, de vous dire que vous rendez heureux des personnes qui, au jour le jour, ont un quotidien difficile.
C'est certain. Alors, c'était pas forcément notre première idée ou notre première motivation. Mais c'est certain que quand on a vu qu'on a rendu des gens heureux, dès les premiers tours, parce qu'on a joué les premiers tours devant 100 ou 200 personnes, mais au fur et à mesure, et dès les 32e, quand on a éliminé le LOSC, on a senti un engouement populaire qui a commencé par la ville, après un peu plus l'agglomération, et puis après la région, et puis en finale peut-être toute la France, mis à part la, la partie, la région nantaise. Donc forcément, on était très contents de rendre les gens heureux. On était heureux, nous on était heureux. Et puis dans notre équipe à l'époque, il y avait, alors sur les 16 joueurs, je pense qu'il y a 14 joueurs qui sont issus du Nord-Pas-de-Calais. Donc on savait ce que ça représentait, on sait ce que la région a comme valeur, et nous on essayait de les retranscrire sur le terrain.
Et l'arrivée au Stade de France, alors, c'était vous avez senti quand même au moment de l'hymne national de vous dire que voilà, et de voir trois quarts du stade qui était sous vos couleurs.
Bah, on avait préparé aussi un peu, c'est-à-dire qu'on avait été invité à aller voir un match de l'équipe de France. On avait été s'entraîner aussi un peu la veille du match. Alors évidemment, quand le Stade de France est plein, c'est encore différent. Quand vous entendez la Marseillaise qui vous la chantez, bon, je vais pas dire qu'on s'en rend pas compte, mais nous, on était vraiment focalisés sur notre match, notre performance, et d'essayer, comme pour les matchs précédents d'ailleurs, d'être à la hauteur de l'événement et pas en direct sur TF1 devant plus de 13 millions de téléspectateurs prendre une volée. Donc, c'est ce qu'on a déjà réussi à faire, ce qui était déjà une grande performance. En plus, après mener 1-0 à la mi-temps, et puis malheureusement se faire rejoindre et prendre ce pénalty presque dans le temps additionnel. Donc, mais non, on était surtout très, très contents. On arrivait aussi, c'est pareil, on arrivait à faire abstraction de l'environnement autour du match, parce que si on avait passé notre temps à regarder où étaient nos parents, nos amis. Ouais. Le match, on l'aurait pas forcément bien vécu.
Il y aurait eu un score plus, exactement. plus difficile à encaisser, je pense.
Exactement, exactement.
Bah justement, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette finale, étape par étape, le but d'abord, le vôtre, celui de Calais, ouais. Ce que vous vous êtes dit à la mi-temps, et puis, parce qu'il y a 1-0 hein, à la mi-temps pour,
ouais,
Calais,
c'est ça,
et puis
c'est ça.
L'égalisation ensuite et le pénalty litigieux du coup à la fin.
Bah, disons qu'on fait notre match comme on avait l'habitude de le faire, à savoir respecter les consignes du coach, bien se préparer, bien se concentrer, faire abstraction de l'environnement, le président de la République. Enfin voilà, en plus il y a un protocole spécifique au final de Coupe de France, la Marseillaise. Donc là il y a déjà énormément d'émotions. Le stade, il est à 78 000 et quelques, donc il est quasiment à guichet fermé, c'est l'une des plus belles affluences du Stade de France. Et puis c'est vrai que le match, on le démarre plutôt bien, on n'est pas mis en danger. Et puis on a, suite à un corner de Jocelyn Merlan, qui n'est pas forcément bien dégagé par la défense nantaise, le ballon revient sur Jérôme Dutitre. Et on a aussi un peu de réussite, parce que Jérôme frappe, mais la frappe passe entre les jambes de Mickaël Landreau. Et ouais, donc ça nous permet de mener 1-0. On a une contre-attaque où on peut peut-être faire la différence, mais Mickaël Gérard, parti en contre, sa frappe croisée et passe à ras du poteau. Et puis à la mi-temps, il se passe un truc qu'on n'avait pas anticipé, c'était que le coach n'était pas encore suffisamment content de notre prestation. Donc ça nous a un peu surpris. Mmh. Il nous est un peu rentré dedans.
Qu'est-ce qu'il vous a dit ?
Bah, il pensait qu'on pouvait encore faire mieux. Donc on a pris un petit. Il était content évidemment qu'on mène 1-0, mais il pensait qu'on pouvait encore faire mieux dans l'utilisation du ballon, dans le jeu. Donc ça nous a un peu surpris. Après, on est un peu quand même un peu encore dans la déception, mais un peu dans l'étonnement. Et puis on, ouais, prend un but assez vite. Ils reviennent assez vite à la 52e ou 53e minute. Et puis après, bah, on n'a pas trop d'occasion, mais Nantes non plus. Et puis après, il y a une touche pour nous. Il y a une contre-attaque nantaise avec Monterubio et Chiaveglia. Et puis bon, il y a un accrochage avec notre défenseur central et l'arbitre siffle penalty. Le penalty est transformé par Antoine Sibierski. Cédric le touche mais n'arrive pas à le sortir complètement.
Ouais. Et 20 ans plus tard, est-ce que vous en gardez un goût amer justement de cette défaite avec ce penalty litigieux qui aurait pu ne pas être sifflé, ou est-ce que vous êtes plutôt dans c'est un bon souvenir et
ça. Et c'était un non, mais ça reste un énorme souvenir forcément et que du positif. Après, peut-être qu'on aurait mérité peut-être la prolongation. Après, on ne sait pas ce qui se serait passé dans la prolongation, parce que 30 minutes de plus, franchement, là, c'était le bout du parcours. Il y avait eu 3 semaines entre la demi-finale et la finale, donc énormément de sollicitations diverses et variées. On était physiquement un peu quand même entamés, donc on n'a pas fait non plus notre meilleur match lors de cette finale. Et donc, non, on était surtout, bien sûr, une énorme déception d'être passé si près au coup de sifflet final, forcément. parce que quand on joue un match de foot, on essaye de l'emporter. Donc même si c'était la finale et qu'il y avait un gros écart entre nous et Nantes, mais on essaye de l'emporter. Donc forcément, il y a une grosse déception au coup de sifflet final. Mais après, c'est une énorme fierté d'avoir vécu une énorme satisfaction, d'avoir vécu ce genre d'émotion qu'on ne pensait jamais vivre en tant que footballeur amateur. Et puis la joie qu'on a pu donner aux gens, aux Calaisiens, aux Nordistes et peut-être un peu partout en France.
Et juste pour rappel, d'ailleurs, Nantes, c'était vraiment une grosse équipe à l'époque. Hein. On est à la fin de la grande époque du jeu à la nantaise, hein, comme on disait. Ils gagnent la Coupe de France en 99 et du coup en 2000. Ouais. Ils gagnent le championnat de France en 2001, donc l'année d'après. Et puis dans leur équipe, il y a quand même Landreau, Eric Carrière, Darrocha, il y a Monterrubio. Qui rentrera, je crois,
en cours de match.
Ouais, voilà. Donc il y avait du monde. Mais est-ce que vous avez pas fait un match ou un événement pour les 20 ans ?
Alors on a fait un premier événement pour les 10 ans au stade de l'Épopée de Calais. On avait joué contre le Vérité Club de France. On avait réussi à remplir le stade de l'Épopée, donc 12 000 personnes, et faire un don de 80 000 euros à l'association Les Enfants de la Terre de Yannick Noah. On voulait faire la même chose pour les 20 ans avec. Un remake de la finale ici à Calais avec les Nantais, et on s'était mis d'accord avec Michael Landreau. Malheureusement, le Covid est passé par là et on a dû l'instant en tout cas remettre cette rencontre, mais plus on va attendre, plus on va vieillir et donc plus ça va être compliqué de faire le match.
Voilà. Et alors Réginald, après cette finale, vous avez eu la bénédiction quand même du président de la République Jacques Chirac, qui a déclaré: il y a deux vainqueurs, l'un sportif et l'autre humain.
Ouais, ça fait partie des phrases de notre aventure. C'est vrai que déjà que de par l'image que l'on a donnée, on a toujours respecté nos adversaires, on n'a jamais cherché à blesser quelqu'un, mais sur le terrain, on a toujours été très respectueux. C'était un match de foot qu'il fallait jouer. On a toujours donné le maximum de nous-mêmes en respectant nos adversaires. Et puis après, dans ce qu'on pouvait déclarer ou dans ce qu'on pouvait montrer à l'extérieur également, je pense qu'on a montré une bonne image du football en général et du football amateur en particulier. Et puis c'était vraiment quelque chose de ces six mois d'une vie qui ont été fantastiques.
Et puis au titre des belles images, on retiendra aussi celle où tu lèves la coupe avec Michael Landreau qui te demande de venir sur l'estrade et vous levez la coupe à deux.
C'est ça. C'est ça. Ça clôture, on va dire, le parcours, on va dire, pas en apothéose, mais presque, parce que jamais on pouvait imaginer ce genre de choses. Je ne m'y attendais pas du tout, évidemment. Il y avait une grosse déception suite à la défaite. Et puis Mika, il vient me voir, et puis surtout, il me dit surtout ne le prends pas mal. Il me dit, mais je pense que par rapport à ce que vous avez fait, ce que vous avez montré, ça serait bien que tu viennes soulever la coupe avec moi. Donc c'était assez surprenant comme initiative. J'en ai demandé au coach, j'en ai discuté avec le coach pour voir un peu si c'était ma place d'aller soulever la coupe. Il m'a dit, écoute, oui, il n'y a pas de problème. Donc, j'y suis allé. Et c'est vrai que je pense que j'ai bien fait d'y aller parce que c'est une belle image de la Coupe de France qui regroupe le sport amateur, le sport professionnel. Et il n'y a que le foot qui peut permettre ça. Donc c'est, je pense, une image bien symbolique du football et de la Coupe de France en particulier.
Ouais, moi je me souviens que vraiment vous aviez touché le cœur des gens. Bon, j'étais jeune, mais je me souviens de ça, y compris même, je pense, à la finale, y compris des Nantais. Enfin, je pense que quand on n'était pas supporter de l'équipe que vous affrontiez, évidemment, on était tous pour vous, comme généralement d'ailleurs on est pour le petit poucet. Même que les adversaires aussi, ça n'aurait pas été, en tout cas pas pour la finale. Voilà, je pense que les Nantais auraient peut-être mieux digéré face à vous, quoi.
Peut-être, non, mais c'est sûr. Non, mais après, la semaine d'après, Nantes aussi avait un match très important parce que même s'ils deviennent champions de France l'année suivante, sur le week-end d'après, ils devaient jouer leur maintien au Havre. Donc, ils avaient aussi des matchs très, très importants. Non, mais, et puis, ça s'est toujours très bien passé dans nos relations avec les clubs, les joueurs professionnels. Donc, on a vraiment une belle aventure et qui se finit avec cette photo. Bon, qui, comme j'ai dit, j'aurais bien voulu soulever la coupe seule avec mes partenaires. Bon, j'ai réussi à la soulever. C'est grâce à mes partenaires, grâce au club, grâce à l'équipe, grâce à tout le monde. Et ça clôture bien notre aventure. Ouais.
Et est-ce que vous pensez que cet exploit de Calais, justement, a pu mettre en lumière le foot amateur ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites suite à cet exploit justement de, je sais pas, de, du football français, de se dire qu'il fallait valoriser les petits clubs, les aider sur les infrastructures, etc. 20 ans après, quel est votre...
Bon, non, il n'y a rien eu de particulier de fait par rapport à ça. C'était une aventure d'un club de 20 mecs qui étaient super bien ensemble avec le staff technique et qui ont réussi à retourner des montagnes. Après, je sais que l'entraîneur des Herbiers que j'ai pu croiser et qui a fait aussi lui des parcours remarquables en Coupe de France avait simplement dit Calais a montré la voie, a montré que c'était possible. Alors il y avait eu quelques exploits avant 2000, mais c'est vrai que depuis 2000, vous avez régulièrement quand même, et on le voit encore sur cette saison, des clubs de CFA, de CFA2, enfin de National 2 ou National 3 aujourd'hui, qui arrivent en huitième, en quart, en demi, et les Herbiers, même s'ils étaient en National, étaient arrivés en finale. On a la double épopée de Quevilly à l'époque aussi, qui était en National 2. Ouais. Il y a eu Carquefou, il y a eu... Voilà, je pense qu'on a peut-être aussi montré que c'était jouable, que c'était tout à fait jouable sur un match, évidemment, pas sur un championnat, hein, mais sur un match, tout est jouable. Vous profitez peut-être du manque d'investissement du club pro et la surmotivation de votre équipe, et ça rééquilibre les débats et vous pouvez faire l'exploit.
D'ailleurs, Calais est retourné en quart de finale de Coupe de France en 2006.
C'est ça, et ouais. Une nouvelle fois contre Nantes.
Oui, justement, ouais. C'est l'ironie.
Contre Nantes à Bollard, il y a eu défaite 1-0.
Ouais. Ouais.
Mais alors justement, excuse-moi Julien, vas-y.
Ouais, non, j'avais juste une dernière question pour ma part. Est-ce qu'il y a quand même eu un match de référence durant ce parcours en 2000?
Le match de référence, hein, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est le match de Bordeaux. Hein, c'est le match.
Oui, mais une équipe quand même de CFA, il y a forcément un match référence avant pour arriver jusqu'en 2000. Parce que déjà,
Oui, non, mais c'est sûr. Le match de référence, pour moi, c'est... Peut-être le début, vraiment le début du commencement de ce parcours, c'est notre huitième tour contre Dunkerque, où forcément c'était un derby Calais-Dunkerque, à Calais dans notre bon vieux stade, oui. Julien Denis, avec la tempête et tout. Et là, on gagne 4-0, il y a 3-0 au bout de 30 minutes. Enfin, on a peut-être senti déjà quelque chose. Et puis après, le 32e de finale contre le LOSC, puisque le LOSC était leader incontesté de Ligue 2 à l'époque, avec Veidai Ludzik à sa tête. Le LOSC nous avait éliminé la saison d'avant au 7e tour de la Coupe de France. Donc, on avait à cœur de faire mieux et d'essayer de passer. Et c'est ce qu'on a réussi à faire après prolongation et la séance de tir au but. Donc, je pense que ça, c'était un vrai élément déclencheur.
Alors, Réginald, comment est-ce qu'on prépare la Coupe d'après l'année suivante, en 2001, donc... vous faites à nouveau des matchs de Coupe de France, mais les attentes ne sont pas les mêmes.
Pas beaucoup, parce qu'en fait, on a été qualifié direct en 32e de finale. Alors je ne connais plus le règlement exact, mais en fait, on n'a pas fait de tour de Coupe de France et on est arrivé directement en 32e, ce qui n'a pas forcément été bénéfique pour nous, parce qu'on est tombé tout de suite sur une Ligue 1 qui était Sedan et qui était 4e de Ligue 1 à l'époque. Et on avait été sorti tout de suite en 3-1. Par contre, c'est vrai que la saison d'après, sur le match de championnat, parce que le club avait envie de monter et de jouer les premiers rôles en CFA, les équipes ou les joueurs qui vous soutenaient ou qui vous encourageaient là, 6 mois avant, jouaient l'équipe de Calais, finaliste de la Coupe de France. Et donc là, les matchs étaient extrêmement, extrêmement tendus, extrêmement compliqués à gérer, et c'était pas évident.
Ouais, le regard sur l'équipe a changé.
Ouais, exactement, le regard sur l'équipe, le regard sur le club, et puis vous aussi, nous les joueurs, quelque part, le statut avait changé, donc est-ce qu'on avait moins d'investissement, est-ce qu'on était un peu encore fatigué, donc tout ça a fait que ça a été très compliqué cette saison.
On était avec Charlie Tange, entraîneur du FC Versailles, il y a quelques minutes dans Parlons Sport. Mmh. Donc le FC Versailles qui est qualifié pour les huitièmes de finale, qui va affronter à domicile le Toulouse Football Club.
Oui.
Comment est-ce que tu analyses ce parcours-là? On a deux clubs de National 2 qui sont en huitièmes de finale, donc Versailles et Bergerac.
Ouais.
Est-ce que tu vois des similitudes, des ressemblances entre le parcours de ces équipes, notamment celui de Versailles, et puis l'épopée calaisienne en 2000?
Bah, forcément qu'il y a des similitudes, forcément qu'il y a de la qualité dans les deux équipes, forcément qu'il y a de la préparation aussi nécessaire, forcément qu'il y a des coachs qui sont capables aussi de pouvoir analyser le jeu adverse et le jeu des professionnels. Donc oui, après, comme je disais tout à l'heure, quelque part, quand vous voulez faire une épopée, il vous faut aussi un peu de chance au tirage. Nous, en 16e de finale, on avait tiré Langon-Casté CFA2. Là, vous avez Versailles qui, en 16e de finale, tire La Roche sur son terrain. Donc, vous avez toujours une part de chance également dans le tirage. Jouer Toulouse, je ne sais pas si c'est une bonne chose, parce qu'en fait, Toulouse n'a joué que des équipes de National 2 ou de National 3 et a réussi à se qualifier. Alors, toujours à l'arrache, mais a réussi à se qualifier. Donc, je pense qu'ils sont quand même un peu prévenus. Maintenant, tout est jouable sur un match pour Versailles, qui a déjà sorti plusieurs équipes d'un bon niveau. Donc c'est super pour les joueurs. Puis, je crois savoir qu'il y a un sacré projet à Versailles. Donc, ça va aider aussi, je pense, à faire avancer peut-être le projet un peu plus vite.
Oui, en tout cas, ça sera le premier gros club qu'affrontera Versailles dans ce parcours en Coupe de France. En termes de préparation, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Alors, préparation non seulement d'un point de vue physique, mais surtout d'un point de vue psychologique, parce qu'ils vont être sollicités là jusqu'à la fin du mois de janvier.
Janvier, ouais, c'est vrai, ça fait un peu long. Ouais.
Le regard change, et puis il y a des matchs de championnat aussi.
Il y a des matchs de championnat à jouer, ouais, tout à fait. Bah, la grosse différence entre Versailles et nous à l'époque, c'est-à-dire que nous, en championnat, on avait rien à prétendre. C'est-à-dire qu'on faisait... Et les matchs de coupe s'enchaînaient tous les 15 jours. Là, il y a plus de 3 semaines. Et donc, nous, on jouait les matchs de coupe et on avait un autre groupe qui jouait les matchs de championnat. Là, le club de Versailles a une envie aussi de monter en national. Donc, je pense qu'ils ne feront pas tourner l'effectif. Donc, les joueurs vont devoir jouer, s'investir. Et puis peut-être aussi... pas vouloir envie de se blesser parce qu'ils veulent jouer le match de coupe. Enfin, c'est très particulier comme préparation. Après, c'est au coach et aux joueurs de prendre conscience que de toute façon, il faut jouer tous les matchs à fond pour pouvoir se préparer au mieux. Pour les sollicitations, nous, à l'époque, alors c'est pas arrivé dès les 16e de finale, c'est arrivé un petit peu plus tard, mais le club avait mis quelque part en place un attaché de presse qui regroupait toutes les demandes médias qu'il pouvait y avoir, ce qui permettait que les joueurs étaient moins sollicités et surtout que tous les joueurs pouvaient être sollicités et pas simplement le capitaine, le gardien de but ou le buteur.
Un dernier mot sur le règlement. Si Versailles réitère l'exploit de Calais en 2000, ça sera sans les prolongations et directement peut-être avec la séance de tir au but. Est-ce que tu juges bon la suppression de ces prolongations là en Coupe de France ?
C'est ce que on m'a déjà posé la question. La Coupe de France elle a plusieurs particularités, c'est que c'est la seule compétition de sport collectif qui permet aux amateurs de rencontrer des professionnels, et c'est la seule compétition à laquelle il y avait des prolongations, et c'est ce qui fait un peu la magie de cette compétition. Donc aujourd'hui, pour l'instant, il n'y en a pas. Alors, est-ce que ça avantage les pros? Est-ce que ça avantage les amateurs? Quand on regarde les matchs, franchement, il n'y a pas. Je pense que ça s'équilibre. Ça n'avantage pas plus l'un que l'autre. Moi, je trouve ça dommage parce que pour l'histoire, en fait, et l'histoire de la Coupe de France, comme je disais, ça fait partie de la compétition. Ça fait 30 minutes de bonheur en plus. Ça fait 30 minutes de bonheur en plus pour les joueurs, parce que vous ne jouez pas une équipe de Ligue 1 ou de Ligue 2 tous les week-ends. Pour les supporters, les spectateurs, parce que ça reste un événement, un match de Coupe de France contre une équipe professionnelle, ça reste un événement, c'est un événement pour le club, c'est un événement pour les supporters. Donc je serais plus tenté à dire que j'espère que les prolongations reviendront. Maintenant, si elles ne reviennent pas, c'est tout, ça fera partie de l'histoire de la Coupe de France, sachant que pour l'instant, aujourd'hui, il n'y aura des prolongations que lors de la finale.
Pas de prolongation, malheureusement, pour Parlons Sport. Merci, Réginald Beck, ancien capitaine de l'équipe de Calais, finaliste de la Coupe de France 2000, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci, Julien, et merci, Julie.
Merci beaucoup à vous aussi.
Merci, Gilles. Salut à tous.
On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Parlons Sport. Bon match et bonne semaine.
Parlons sport. Parlons sport, une émission animée par Gilles Bombard.